CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive en santé avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel.
Bonsoir à tous, Shalom les Koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée veut découvrir l'histoire des juifs yéménites et se plonger dans leur musique. J'utiliserai comme base l'album enregistré en 1989 par le musée de la diaspora, Beth Atfusot, à Jérusalem, mais j'utiliserai aussi d'autres enregistrements. Et pour commencer, qui sont les juifs yéménites? Comme leur nom l'indique, ce sont les juifs qui vivaient ou dont les ancêtres récents vivaient au Yémen, dans la pointe sud de la péninsule arabique. D'accord, mais comment et quand sont-ils arrivés là? C'est là que tout se complique. Il y a plusieurs légendes. Ce serait une des tribus perdues. Ou alors, ce seraient les descendants de la tribu de Juda. Ou bien encore, ce seraient des autochtones qui se seraient convertis au judaïsme après la visite du roi Salomon à la reine de Saba. Ils sont arrivés 42 ans avant la destruction du premier temple, soit en gros au 5e siècle avant Jésus-Christ. Bref, il y en a pour tous les goûts. On a des traces archéologiques de leur présence au moins à partir de la dynastie des Himyarites, qui s'est installée au Yémen une centaine d'années avant Jésus-Christ. Il y a des documents accordant le droit de construire des synagogues signés par les rois Himyarites dès le 2e siècle de notre ère. La question religieuse montre combien le Yémen fut le théâtre de multiples influences. D'abord, en 380, le roi Abikarib Assad, eh oui, déjà un Assad, et ses corégents se convertissent au judaïsme. Cette première révolution met un terme définitif au polythéisme ancestral. Puis peu à peu se diffuse le christianisme qui est vu comme une secte et combattu comme tel. Et là, un épisode historique que je ne connaissais pas du tout. Une lutte religieuse éclate entre chrétiens et juifs sur fond de guerre civile, et dès 519, le roi d'Éthiopie soutient activement le coup d'état du chrétien Madikarib Yafour. Mais il perd, et il sera exécuté par le monarque juif Yusuf Assar Yatar, qui s'empresse d'asseoir son pouvoir en lançant une grande persécution des chrétiens, dont le comble se situe en 523 ou 524 avec le martyr de Saint Arétas à Najran. On va faire une petite pause dans la présentation historique pour entendre un premier morceau de musique juive yéménite, mais ce ne sera pas choisi dans l'album de référence de cette émission, mais dans l'actualité musicale d'aujourd'hui. On va découvrir les sœurs Chaïm. Elles sont trois et constituent le groupe Alwa. Elles chantent en dialecte yéménite, créant un pont culturel entre Israël et Palestiniens. C'est aussi un hommage à la tradition orale d'un pays ravagé par les bombardements, la montée du terrorisme islamique et la famine. La chanson que nous allons entendre, le morceau Habib Galbi, est l'histoire d'une femme désespérée par l'absence d'un homme qu'elle aime et qui veut qu'il revienne. Les sœurs disent « Il y a des femmes qui chantent en Israël, mais pas ce genre de chanson. » Pas ces chansons séculaires chantées par des femmes et parlant de problèmes de femmes. Nous, on met cette musique au premier plan et on la mélange très naturellement avec nos influences. Écoutons Habib Galbi.
Bye.
C'était Habib Kalbi, interprété par le trio Alwa. J'ai choisi ce morceau pour montrer que cette tradition est toujours vivante, puisqu'elle produit de nouveaux rameaux, tels ces jeunes femmes. Le prochain extrait musical sera de l'autre côté de l'axe temporel, on écoutera le chant des racines. Revenons maintenant à l'histoire des Yéménites. Alors à mon humble avis, la conversion au judaïsme des nobles himyarites entre le 4e et 6e siècle était due plus à des raisons politiques qu'à des convictions religieuses. Le souverain voulait que ses sujets aient la même religion. Choisir le christianisme aurait signifié une allégeance aux Byzantins, ce qu'il ne voulait pas. L'islam n'existait pas encore. Bref, ils se sont convertis au judaïsme. Au 6e siècle, en 623 ou 24, on a un roi juif, Yusuf Asar Yatar, connu dans le monde musulman sous le nom de Dou Nouwas. On sait peu de choses de ce roi, mais l'une d'entre elles est qu'il a assiégé et conquis la ville de Najran dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le 6e siècle voit donc se développer des troubles religieux d'importance, mais aussi un déclin politique de l'Empire. Et en 525, l'Empire demeure impuissant à contrer la grande invasion par les Abyssins, mandatée par Basileus, et le roi Yusuf se suicide. Là, on a un petit trou de 5 siècles pendant lesquels l'islam a vu le jour, et les Arabes, qui ont choisi cette religion, ont conquis tout un tas de territoires au sud et à l'est de la Méditerranée, dont la péninsule arabique. En 1174, le grand penseur juif Maïmonide écrit une épître aux juifs du Yémen qui a eu une portée bien plus large que ce seul pays. Elle fut diffusée dans toute la diaspora juive et acquit une importance considérable dans le judaïsme. On en parle encore aujourd'hui. Il y avait peu de sages ou chachamim au Yémen à cette époque. Par contre, ils ont eu un allumé, un prophète autoproclamé qui prêchait une religion syncrétique combinant judaïsme et islam. Il aurait des difficultés s'il vivait nos jours, celui-là. Bref, un des rares sages qu'ils avaient, Jacob ben Nathanaël al-Fayoumi, a écrit à Maïmonide une lettre, et Maïmonide, qui était en Égypte à ce moment-là, a répondu par cette épître appelée l'Igeret Teiman, qui fit forte impression au sein de la communauté juive du Yémen et arrêta l'avancée du nouveau courant religieux. Elle fut aussi une source de réconfort et de consolation face aux persécutions. La grande question était, se convertir ou devenir martyr. Maïmonide a conseillé de rester fidèle au judaïsme tant que c'était possible, mais d'essayer au maximum d'éviter les confrontations et situations de conflit. Les juifs yéménites, isolés du reste de la diaspora, étaient à cette époque menacés par les musulmans chiites zaïdistes qui entreprirent de convertir la communauté de gré ou de force, surtout de force d'ailleurs. Le deuxième morceau qu'on va entendre est la racine profonde, celle qui est à l'origine du premier morceau que vous avez entendu. C'est un piyout de Shalom Shabazi qui a vécu au XVIIe siècle et qui exprime la dévotion à la présence divine. La façon de chanter traditionnelle de la plupart des communautés humaines, juives ou autres, est un assemblage de parties collectives et de parties solistes. Il peut y avoir un soliste et la collectivité répète, ou alors elle répond et c'est un dialogue, ou encore elle complète et c'est une narration partagée. Les dialogues peuvent se faire sous la forme de conflits ou de renforcements, bref, on peut imaginer plein de choses. Ici, le soliste chante les deux premiers vers seul, et à partir de là, le chœur va compléter ses vers. Vous noterez deux mélodies distinctes, la première lente et souple, la deuxième plus rapide et plus rythmée, ce qui est mis en valeur par l'intervention de percussion. On écoute Adon Hakol par les Bene Teiman de Kiryat Ono. Shama ya sa'u hasda labat nadim hakama labo shame anan.
Allah, 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 Allah.
C'était Adon Hakol, interprété par le chœur des Benetehiman de Kiryat Ono, avec Danny Cohen comme soliste. Les Benetehiman sont un groupe de musiciens originaires de la région de Manara. Ils vivent maintenant dans une banlieue de Tel Aviv, Kiryat Ono. Je continue avec l'histoire des Juifs au Yémen. Les persécutions contre les Juifs perdurèrent jusqu'au XVIe siècle, 1547 pour être précise, lorsque l'Empire ottoman a conquis le Yémen. Une des conséquences positives de cette conquête, ça a permis aux Juifs du Yémen d'entrer en contact avec d'autres Juifs également sous domination ottomane, en particulier avec ceux de Safed. Malheureusement, ça n'a pas duré, et lorsqu'en 1630 les Haïdis ont conquis le Yémen, les persécutions ont recommencé. À la fin du XVIIe siècle, il y a eu une expulsion massive, appelée l'exil de Maouza, que le poète Shalom Shabazi, dont on a entendu le piyout juste précédemment, a vécu en personne. À peu près un an plus tard, les Juifs expulsés survivants ont été autorisés à revenir pour des raisons économiques, étant donné qu'ils étaient les artisans et les bâtisseurs, et de ce fait extrêmement importants pour l'économie du pays. De plus, je pense que peut-être ils versaient un impôt conséquent. Ces Juifs survivants ne purent rentrer chez eux, bien sûr, et ils durent s'installer dans des ghettos. Ils firent une sorte de pacte. Les musulmans fournissaient la nourriture et les Juifs les produits manufacturés. Les Juifs du Yémen exerçaient des professions que les musulmans haïdis évitaient. Par exemple, les métiers du métal, soit les armes et les outils, la poterie, la maçonnerie, la charpente et le shmates, c'est-à-dire les métiers du tissu, tissage, couture et même les chaussures. Pendant tout le XVIIIe siècle, les imamiques étaient au pouvoir et la vie des Juifs s'améliora. Puis la situation se détériora encore, jusqu'à la reconquête par les Ottomans en 1872, et là, ça se prolongera jusqu'en 1918, au moment de la disparition de l'Empire ottoman. Je vous propose d'entendre un autre piyout par le poète Zekaria Aldari. Il exprime l'amour et la langueur pour Jérusalem, la belle ville. Musicalement, la structure est très semblable à celle du morceau précédent. Un soliste chante deux vers, puis à partir du troisième, le reste du chœur répond, puis la mélodie change, devient plus rythmée et accompagnée de percussions. La différence majeure, c'est qu'ici les solistes alternent jusqu'au couplet final où ils chantent tous les trois.
Moi, amorat la malker wasora erina amorat la malker wasora
yemazkarai va
C'était Kyria Yefefia, interprétée par le chœur des Bene Teiman. Parlons un peu de la communauté maintenant. La communauté juive du Yémen est l'une des plus anciennement établies. Ils ont émigré en Israël, où ils se trouvent actuellement pour leur majeure partie. Si la plupart des émigrations ont eu lieu au XXe siècle, à partir du XIXe, c'était déjà assez fréquent. Mais on ne doit pas dire « la communauté juive du Yémen ». Une seule communauté? Vous rigolez, il y en avait trois principales. Les Baladis, les Chamis et les Maïmonidéens ou Rambamistes. Les Juifs Baladis, de l'arabe balad, pays, qui suivent généralement les règlements légaux basés sur leur interprétation du Mishneh Torah. Leur liturgie fut développée dans une tentative de concilier tout le monde. La liturgie se base largement sur l'ancienne tradition yéménite avec quelques concessions. Tous les juifs baladis n'acceptent pas la Kabbale d'un point de vue théologique, et lorsqu'ils le font, ils estiment que chaque juif doit suivre sa propre tradition. Il y a ensuite les juifs chamis, de l'arabe Hacham, le nord. Ils ont accepté la Kabbale et modifié leur liturgie pour se conformer de façon maximale au rite prôné par Isaac Luria, soit l'école de Safed. Très influencés par les séfarades de Syrie, ils ont cependant rejeté les codes de loi juive ultérieurs, originaires d'Europe d'ailleurs, et préféré suivre les décisions de Maïmonide. Et finalement, il y a le troisième groupe, les Talmidei Harambam, qui sont des adhérents stricts à la loi talmudique telle que compilée par Maïmonide, influencés par le mouvement d'Ordaïm et rejetant tant le Zohar que la Kabbale lourianique. Bref, chez eux comme partout, il y a la même querelle entre conservateurs et progressistes. Et pour illustrer cette lutte millénaire entre ces deux forces, nous allons écouter deux versions du même piyout, Imninealu Daltei Nedivim, qui dit que si les portes de l'homme généreux sont fermées, celles des cieux sont toujours ouvertes. C'est encore un poème de Shalom Shabazi. On va entendre une version chantée par les Bene Teiman de Kiryat Ono, de la manière traditionnelle, puis une autre version par la chanteuse Ofra Aza. C'est d'ailleurs cette chanson qui lancera sa carrière. Ce piyout se chante traditionnellement pour les mariages et le service de Abdallah qui marque la fin du Shabbat. Il parle d'anges, d'exil et de rédemption. Les couplets font alterner l'hébreu et l'arabe. Décidément, on s'offre toutes les polarisations. Maintenant, la version de Ofra Hazan.
Thank you.
C'était Imnineal ou Deltaine Divine, interprété d'abord par les Bene Teiman, ensuite par Ofra Aza. Il y a toujours des luttes entre les tenants de la tradition issue du progrès. Et pourtant, est-ce qu'un arbre n'a pas autant besoin de ses racines que de ses branches pour être un arbre? Vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel, sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. On a vu que dès le XIXe siècle, les Juifs yéménites émigrent peu à peu, essentiellement vers Israël. La communauté juive a déjà en grande partie quitté la péninsule arabique avant la Seconde Guerre mondiale. Mais l'effet cumulé des violences antisémites, notamment à Aden en décembre 1947, et l'indépendance de l'État d'Israël, tout ça précipite le mouvement. La population juive du Yémen, traditionnellement très pieuse, voit dans la fondation d'Israël un accomplissement prophétique. En 1949, les Israéliens mettent en place l'opération Tapis volant. L'opération concerne en tout 49 000 personnes, pratiquement toute la population juive du Yémen, qui choisit l'immigration. Seuls 1200 juifs décident de rester. En juillet 2009, il ne reste que 290 membres de cette communauté au Yémen, et en mars 2016, après la récupération de 19 personnes, l'agence juive annonce la fin de ses opérations de transfert vers Israël. Parmi les 19 évacués, le rabbin de la communauté amène en Israël un rouleau de la Torah qu'il estime vieux de 600 ans, ce qui met symboliquement fin à la présence du judaïsme au Yémen. Il reste alors une cinquantaine de juifs. Écoutons un très charmant poème de Shalom Shabazi, toujours à Ein Valev, les yeux et le cœur. C'est un dialogue entre les yeux et le cœur pour déterminer lequel des deux est le plus gros transgresseur. Finalement, le poète intervient en dénonçant leurs défauts à tous les deux. Le poème a 11 vers. Les vers impairs sont les couplets de l'œil et les pairs ceux du cœur. Le poète intervient au vers numéro 10 et le 11e exprime l'espoir de la fin de l'exil d'Israël. Comme tout cela est très long, on ne chante en général que quelques couplets. Ceux qui ont été choisis ici sont les vers de 1 à 6, puis les deux derniers. C'est une danse et vous noterez un sentiment d'accélération apporté entre autres par le passage du ternaire au binaire.
Yeah.
C'était Aïn Valev, interprété par les Bene Teiman. Malheureusement, la pièce étant très longue, je dois en couper la moitié. Parlons un peu maintenant du répertoire. La musique est essentielle dans la culture des Juifs yéménites. Il y a en gros trois catégories. La musique liturgique, chantée par les hommes seulement. La musique séculière en dialecte yéménite, chantée par les femmes. Et le diwan, qui est un recueil de poésie, festive ou religieuse, qui se chante pour Shabbat, à la maison, ou pour les fêtes familiales et religieuses. Toutes les poésies ont pour sujet le peuple d'Israël, son passé, son futur, sa relation avec Dieu et le retour à Sion. Le diwan est chanté. Les textes sont écrits, mais la musique et les danses sont transmises de génération en génération par la pratique. Le diwan a été copié à la main. Chaque exemplaire de ce fait est différent, car chaque personne écrit les poèmes qui ont du sens pour elle. Les textes des anciens poètes de l'âge d'or d'Espagnol voisinent ainsi avec ceux des poètes locaux. C'est en fait un carnet de chants comme tous ceux qui, comme moi, sont allés dans des mouvements de jeunesse et se sont constitués un carnet avec les chansons qu'ils chantaient le plus souvent ou qui les touchaient le plus. Certains diwans contiennent une douzaine de textes, d'autres sont en plusieurs volumes, et la même mélodie peut servir pour plusieurs textes, et inversement, un texte peut contenir plusieurs mélodies pour ses différentes parties, comme on l'a vu dans les extraits musicaux précédents. La plupart des textes sont trilingues, hébreu, arabe et araméen, mais les trois langues sont écrites en caractères hébraïques. Le rythme de la chanson ne change pas, quelle que soit la langue employée, ce qui fait que le poète doit maîtriser les trois langues. On va entendre maintenant un poème écrit à deux mains, si on peut dire, puisqu'il combine les vers de deux poètes. Le premier, Yehuda Halevi du XIe siècle, et l'autre, Chisdai, dont on sait seulement qu'il est antérieur au XVe siècle. Les vers impairs sont de Chisdai et les vers pairs sont de Halevi. En prenant les premières lettres des vers impairs, on a l'acronyme de Chisdai et avec les premières lettres des vers pairs, celui de Yehuda. La pièce fait entendre deux mélodies, la première assez lente et ornée, la deuxième en ternaire avec des réponses du groupe, un soliste qui change. On écoute « Chus Elohai » et pitié au Seigneur. Ah. Elohai, interprété par les Bene Teiman. Parlons un peu de la forme musicale maintenant. Il y a trois formes de base, le Nashid, la Shira et le Hallel. Le Nashid est souvent un poème introductif, le plus souvent en hébreu, composé sur un rythme qui ne bougera pas. C'est souvent un chant à répondre qui n'est pas dansé ni accompagné de percussions. Il se caractérise par une ornementation fournie. La Shira est la pièce de résistance de l'événement. Et elle est dansée et accompagnée rythmiquement. Elle est composée en strophes et chantée soit par le groupe, soit en dialogue entre le groupe et un soliste changeant. Enfin, le Hallel est un hymne assez court qui commence et termine par le mot Alléluia et est sur un rythme plus calme que la Shira, comme une transition pour le retour au quotidien. Écoutons un chant de Havdalah, Laner Veliv Samim, à la bougie et aux épices, du poète Seadia, qui a vécu avant le XVe siècle. Ce poème se chante juste avant la Havdalah, qui est la cérémonie de clôture du Shabbat, et c'est l'un des chants les plus populaires pour ce moment-là. C'est une forme nashid, en six vers. Chaque hémistiche est commencée par le soliste et terminée par le groupe. Il y a trois mélodies distinctes. La première, pour les trois premiers vers, est en ternaire. Les trois dernières lignes sont en binaire. Et le poème se termine par une clôture mélodique du soliste à laquelle répond une bénédiction du chœur.
«
C'était Laner Veliv Samim, interprété par les Bene Teiman. J'ai eu envie de vous parler des Juifs du Yémen, car c'est une culture assez extraordinaire qui en a vu de toutes les couleurs. D'abord une évolution en milieu très fermé. Quelques rares échanges avec les Juifs du reste de la Méditerranée jusqu'au XIXe siècle, des persécutions quasiment incessantes, à part quelques très rares et courtes accalmies, et une émigration massive assez spectaculaire avec l'opération Tapis Volant. Une fois arrivés en Israël, ça n'a pas été rose tous les jours pour eux. Leur peau étant noire, ils ont été racisés, comme on dit maintenant. Et leurs coutumes étant très différentes, il y a eu toutes sortes de contestations sur leur judéité. Bref, l'accueil n'a pas été des plus chaleureux. L'envie de faire une émission sur les Juifs yéménites maintenant m'est venue de l'actualité. Ce pays est totalement détruit et vit une crise humanitaire terrible. Monsieur O'Brien du Conseil de sécurité a déclaré « Le conflit au Yémen constitue à présent la plus grande urgence pour la sécurité alimentaire dans le monde. Il y a danger de famine, en fait certitude de famine. » Pourtant, le rapport annuel de la FAO estime que l'agriculture mondiale pourrait aujourd'hui nourrir normalement 12 milliards d'humains. Il n'y a plus aucune fatalité, aucun manque. Objectif. La planète croule sous la richesse, un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné. Et assassiné par qui, je me demande? Par notre système capitaliste, peut-être, pour lequel il est plus important de produire des dividendes juteux pour les actionnaires que de développer un pays ou une industrie quelle qu'elle soit, et de ce fait, un système qui se dévore lui-même. Mais je m'égare. Revenons au Yémen. Ce pays est déchiré par un conflit depuis qu'une coalition internationale menée par l'Arabie saoudite a commencé en mars 2015 une campagne de bombardement pour repousser les rebelles houthis soutenus par l'Iran qui ont pris le contrôle de la capitale Sanaa et d'autres parties du pays. Ah, notre cher allié, l'Arabie saoudite, qui combat vaillamment avec des armes vendues par qui ? No comment. Nous allons terminer cette émission qui s'est peu à peu transformée en hommage aux Yéménites, que ce soit les Juifs qui y ont souffert jusqu'à présent et les non-Juifs qui sont en train de vivre un calvaire maintenant. Nous allons écouter un groupe israélien qui s'inspire entre autres de la musique yéménite et qui s'appelle Yemen Blues. Ils sont très connus et représentent la deuxième génération. Ravid Kahalani est le chanteur et leader du groupe fondé en 2010. Il est yéménite lui-même et s'est entouré de musiciens de très haut niveau. Jugez-en par vous-même en écoutant le morceau « Eli ».
العمر حقي الجبل البركة حقا ولسه عشاني لك صننا مع عينا زرقا بتشوفني عينا الحكيمة بنت مليحة أمك صغني كل ساعة عشاني لك صننا مع عينا زرقا إلي إلي كما هالجبال إلي إلي كما هال إلي إلي العمر حنقي الجبل البركة حنقة كل ساعة الشاري لك صننة مع عينة زرقاء بتشوفني عينة الحكيمة كنت مليها الله بزغني كل ساعة الشاري لك صننة مع عينة زرقاء
أمن أمدي ولانا أمن أمدي ولانا أمن أمدي ولانا أمن أمدي ولانا
إني إني كما الجبان إني إني كما
C'était Ellie, interprétée par Yemen Blues. Pour se procurer les musiques que j'ai utilisées, il suffit d'aller sur YouTube pour tous les morceaux autres que ceux des Bene Teman. Pour eux, le CD que j'ai utilisé est Ahavat Adassa, publié en 1989 par Beth Atfutsot. Et pour les Montréalais, ce CD est à la Bibliothèque juive. Je vous dis à la semaine prochaine.
CJRS vous a présenté La culture juive enchantée avec Hélène Engel.